quelques mots maintenant de présentation rapidement du conférencier de ce soir, Michel Rieu. Il est professeur des universités à l'Université Paris 5 René Descartes et conseiller scientifique du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Quelques mots sur son parcours et sa carrière. De 1978 à 1985, il a été chargé de mission pour la mise en place et l'organisation du département médical de l'Institut national des sports et de l'éducation physique, l'INSEP. De 1984 à 2000, il a été directeur de laboratoire du laboratoire physiologie des adaptations et co-responsable de la formation doctorale physiologie et biomécanique de la performance motrice à la faculté de médecine Cochin-Port-Royal dans cette université, René Descartes, Paris 5. Depuis 1987 et jusqu'à maintenant, il est chef de service à l'hôpital Cochin, exploration fonctionnelle et physiopathologie de l'exercice. Il est de 1997 à 2001, il a été, je suppose qu'il est toujours peut-être, président de la Société française de médecine du sport. Bon, ses publications sont essentiellement dans des articles très nombreux, dans des revues spécialisées nationales et internationales. Donc je lui laisse la parole maintenant pour traiter de son sujet sur la plasticité humaine ou le secret de la performance pendant une cinquantaine de minutes. Et puis ensuite, selon nos habitudes, vous pourrez poser vos questions pendant un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, je vous remercie, bonsoir.
Mesdames, Messieurs, je voudrais vous faire partager tout au long de cet exposé le plaisir que j'éprouve d'être parmi vous. Et pendant cette heure que nous allons passer ensemble, nous envisagerons tour à tour une sommaire et très ambitieuse définition de l'être vivant, mais qui est une première étape de rappel qui est indispensable compte tenu, je crois, de l'hétérogénéité de l'auditoire. Ensuite, nous verrons rapidement une espèce d'explication du titre de ma conférence, Plasticité humaine et performance. Puis, nous envisagerons les bases conceptuelles de l'entraînement physique. Et enfin, pour l'exemple, et pour ainsi dire, par une espèce d'effet de zoom, je m'attacherai à développer de manière plus ciblée, plus concrète, les effets d'un entraînement en endurance sur un phénotype particulier, c'est-à-dire la capacité aérobie des athlètes. Alors commençons donc par l'être vivant. Ben, on peut sommairement décrire l'être vivant, et cela s'applique aussi à l'être humain, comme à la fois une machine à traiter l'information, une machine à transformer l'énergie et une machine à dupliquer. Alors nous allons reprendre chacun de ces éléments et une machine d'abord à traiter l'information. Alors commençons, si vous le voulez bien, par une illustration, une anecdote tout à fait triviale. Si un moustique vous pique au niveau de votre avant-bras, alors que votre main est exposée à la flamme, votre réaction prioritaire sera bien évidemment de la retirer aussi vite que possible avant d'écraser le malheureux insecte, si tant est même que vous y songiez. C'est un scénario simplé, nous sommes d'accord. Cependant, il suppose néanmoins la capacité de capter l'information, qui est là de type agressive et cutanée, de la trier, de la hiérarchiser, car vous allez d'abord traiter le problème de la brûlure avant de traiter celui de la piqûre, puis d'élaborer des réponses pertinentes et coordonnées dans le domaine locomoteur. Cet incident va s'accompagner de manifestations, nous appellerons émotives, de type neurovégétative. Le cœur se met à battre plus fort et plus vite. On peut aussi éprouver une espèce de sensation de bouche sèche et de sueur froide. Enfin, l'incident s'inscrira dans votre mémoire et enrichira votre expérience et vous pourrez en profiter ultérieurement. Cette affaire, qui semble tout banale par sa quotidienneté, sous-entend pourtant une organisation en réseau extraordinairement complexe et qui associe la mise en jeu simultanée du système nerveux de la vie de relation et deux systèmes qui assurent la régulation de la vie végétative. Alors, le système nerveux de la vie de relation est ainsi appelé, comme par hasard, il y a un problème, voilà, est ainsi appelé parce qu'il met en relation l'organisme et le monde extérieur. C'est en quelque sorte le ministère des Affaires extérieures de notre système. Il est composé d'un système de captation des informations, informations qui viennent du monde extérieur et que système que nous connaissons tous, car il est constitué par les cinq sens dont nous disposons, la vision, l'odorat, le tact, le goût, l'odorat. Les capteurs, appelés récepteurs, ont pour fonction de transformer des signaux de nature assez diverses qu'ils reçoivent, chimiques, nature mécanique, vibratoire, électromagnétique, en un signal d'une forme unique, électrique, qui va se propager là le long de tous les réseaux neuronaux qui constituent le système nerveux. Il s'agit du potentiel d'action propagé, communément appelé l'influx nerveux, dont vous avez tous entendu parler, bien évidemment. Mais il est aussi constitué d'un système de traitement de l'information, constitué des multiples centres nerveux qui s'étagent depuis la moelle épinière jusqu'au cortex et qui trient, renforcent ou censurent les signaux initiaux qui viennent de la périphérie. Enfin, d'un système effecteur, ici, constitué de l'ensemble de l'appareil locomoteur qui est mu par les muscles grâce auxquels l'organisme vivant va pouvoir soit se positionner vis-à-vis de l'environnement, soit modifier l'environnement à son profit. Et puis alors, à côté de ça, nous avons le ministère des Affaires intérieures, si vous voulez, c'est-à-dire les systèmes qui assurent la régulation de la vie végétative. Et ceux-ci comprennent notamment l'appareil neuro-endocrinien qui régule le fonctionnement interne de l'organisme en contrôlant et en coordonnant l'activité de ces différentes composantes. Composantes, c'est-à-dire les organes et ou les tissus, eux-mêmes regroupés en systèmes, systèmes cardiovasculaires, systèmes digestifs, systèmes musculaires, etc., etc. Alors sur ce point, j'insisterai plus particulièrement sur le rôle du système nerveux autonome. Alors là, les récepteurs, vous voyez ici, sont effectivement situés au niveau même des organes. Les centres de traitement, quant à eux, s'échelonnent, comme pour ceux de la vie de relation, tout au long de l'axe cérébro-spinal, mais leur spécificité vis-à-vis des centres nerveux de la vie de relation se réduit au fur et à mesure qu'ils sont plus haut situés. Plus haut situés, ça veut dire au fur et à mesure qu'ils se rapprochent des zones corticales. Et c'est la raison, ça explique pourquoi toute stimulation forte en provenance du monde extérieur va s'accompagner de manifestations neurovégétatives qui vont donc affecter votre monde intérieur. Quant au système effecteur, il est double. Il est de type parasympathique et de type orthosympathique. Alors, il est de type parasympathique selon qu'il s'agit respectivement de mettre l'organisme au repos, de constituer des réserves énergétiques, et c'est aussi, notamment, mais parmi d'autres phénomènes, un freinateur cardiaque. Alors qu'au contraire, le système orthosympathique, c'est l'accélérateur. Il rentre en jeu dans le cadre des environnements, des situations de type de stress, et ce système va mobiliser les réserves énergétiques de l'organisme, il va mettre en éveil l'organisme et, entre autres, il va être un accélérateur cardiaque. En réalité, traiter l'information n'est pas l'apanage du seul système nerveux, mais ça constitue une fonction très générale de l'organisme. Ainsi, chacune des cellules qui composent cet organisme possède sur sa membrane ou sur la membrane de son noyau des récepteurs qui lui sont spécifiques. Et ceux-ci vont permettre à cette cellule de capter les messages chimiques ou physiques qui proviennent d'autres cellules qui parfois sont situées à proximité d'elles-mêmes, soit parfois sont très éloignées, et du coup de mettre en œuvre les réponses pertinentes qui sont les siennes et qui correspondent à son haut niveau de différenciation quand c'est une cellule très spécialisée. Ce vaste système de communication et de traitement de l'information est à la base des grandes fonctions du vivant, la régulation de l'homéostasie, c'est-à-dire maîtriser l'équilibre interne, les équilibres internes de l'organisme, la cognition, tout ce qui traite de l'apprentissage, de l'attention, de l'intégration des informations, et enfin de tout ce qui est coordination motrice qui vous permet d'avoir des gestes adaptés et harmonieux. Mais l'organisme est aussi une machine à transformer l'énergie. Alors cette fonction, et je vais insister dessus parce que c'est sur celle-là que nous allons plus particulièrement travailler, cette fonction consiste à transformer, à libérer l'énergie potentielle contenue dans les aliments afin notamment de permettre, dans le cas qui nous intéresse évidemment, au processus de la contraction musculaire de se dérouler. Alors les aliments subissent une première transformation au niveau de l'appareil digestif avant d'être directement utilisés par les cellules ou encore plus souvent mis en réserve dans le foie et les fibres musculaires. La forme de réserve du glucose, c'est essentiellement le glycogène, alors que les graisses, ici, sous la forme de triglycérides, sont mis en réserve au niveau des tissus adipeux, des cellules adipeuses, des adipocytes, hein, des cellules graisseuses, et aussi au niveau du muscle, et on en trouve aussi au niveau du foie. Un troisième type de substrat énergétique est lui aussi stocké dans le muscle. Il n'est pas noté là, mais on en reparlera tout à l'heure. Il s'agit de la créatine phosphate. À partir de ces réserves, différentes voies métaboliques permettent, en fonction des besoins, de restaurer la molécule d'adénosine triphosphate. Alors, cette molécule d'adénosine triphosphate, elle est unique, elle est essentielle. C'est son hydrolyse, ce qu'on appelle sa dégradation en quelque sorte, son hydrolyse qui permet de libérer de l'énergie. C'est cette énergie qui va effectivement permettre notamment l'activité cellulaire. Et vous voyez que cette réaction est à double sens, c'est-à-dire qu'il y a dégradation de l'ATP pour donner de l'adénosine diphosphate et de l'énergie, et à l'inverse, on peut restaurer l'ATP à partir de l'adénosine diphosphate. Et tout de suite, vous le voyez, plus l'activité cellulaire est intense, plus le débit d'utilisation d'ATP augmente et plus la vitesse de restauration de cette molécule doit augmenter. On le comprend bien. Et ce qui fait que lorsque cette vitesse de restauration de la molécule décroît, les processus engagés se ralentissent, voire s'arrêtent faute d'énergie. Et j'attire votre attention que la fibre musculaire a quand même ce caractère unique dans l'organisme, c'est d'augmenter sa consommation d'énergie entre son état de repos et son état d'activité de 30 à 40 fois. Donc, vous voyez l'énorme consommation d'ATP et renouvellement d'ATP nécessaire. Rappelons aussi que le rendement de la machine humaine est faible et qu'environ 80% de l'énergie potentielle contenue dans les aliments est transformée en chaleur. Ceci rend nécessaire l'existence de mécanismes physiologiques qui vont préserver l'homéothermie. Ainsi, au cours de l'exercice physique, grand consommateur d'énergie, la mise en jeu des mécanismes thermorégulateurs, surtout représentés par l'évaporation de la sueur, dont la sécrétion, elle, est accrue, est absolument indispensable afin que soit évacuée au fur et à mesure la chaleur produite en excès. Par exemple, à la fin d'un marathon, s'il n'y avait pas ces mécanismes, eh bien la température corporelle atteindrait la température de 80 degrés centigrades, ce qui est évidemment incompatible avec la vie. Et notons à ce propos que la sécrétion sudorale engendre une perte d'eau qui peut conduire à la déshydratation et si elle n'est pas régulièrement compensée. Une notion tout à fait importante, c'est que l'intervention de l'oxygène est toujours nécessaire pour que les besoins énergétiques de l'organisme soient couverts. Cependant, l'apport en oxygène peut être immédiatement indispensable. C'est le cas des voies métaboliques dites aérobies, qui, à partir des triglycérides ou du glycogène, conduisent à la formation en bout de chaîne d'adénosine triphosphate, de gaz carbonique, d'eau et, bien sûr, d'énergie. Deux autres voies, dites anaérobies, peuvent se dérouler en absence d'oxygène. Celle qui conduit au renouvellement de l'ATP, justement à partir de la créatine phosphate, dont la concentration est très faible dans le muscle, et celle qui, à partir du glycogène, conduit à la production d'acide lactique et donc à l'apparition d'une acidité locale. Néanmoins, et ça, il faut s'en souvenir, l'oxygène sera de toute façon ultérieurement nécessaire pendant la phase de récupération pour restaurer les stocks de créatine phosphate et de glycogène. Mais la vitesse de renouvellement de l'ATP, c'est-à-dire c'est ce qui va conditionner la puissance de la contraction musculaire, on l'a bien compris, elle est, dans le cas des voies métaboliques aérobies, créatine phosphate et lactique, respectivement 4 fois et 2 fois plus importante que dans le cas de la voie aérobie. Et ceci est extrêmement important. Par contre, pour un débit maximum de renouvellement de l'ATP, les durées de vie des deux voies métaboliques anaérobie sont extrêmement brèves. Voyez, en quelques secondes pour cette voie-là et en même pas une minute pour celle-ci, le système est épuisé. Et donc, seul le système aérobie, à ce moment-là, peut fonctionner. Alors, celle-là peut fonctionner pendant plusieurs heures, c'est la voie de privilégier dans les efforts de longue durée. Enfin, le délai nécessaire pour que chacune des voies métaboliques atteigne leur niveau optimal de fonctionnement, c'est-à-dire leur puissance maximale, varie de l'un à l'autre. Elle est nulle, il est nul pour la voie créatine phosphate, c'est-à-dire que cette voie-là métabolique, elle est d'emblée au maximum de sa puissance. Par contre, elle est un peu délayée pour la voie lactique et elle est longue. Vous voyez, le délai est long. Il faut 2 à 3 minutes pour la voie aérobie pour que l'ensemble des réactions enzymatiques permettent au système d'atteindre sa puissance maximale. Alors, on comprend très bien maintenant que le délai nécessaire pour que chacune de ces voies métaboliques atteigne leur niveau optimal de fonctionnement varie. Hein, et on comprend aussi que ces voies anaérobies sont essentiellement utilisées lors des efforts brefs et intenses, alors qu'au contraire, la voie aérobie, elle, va être principalement utilisée lors des efforts de longue durée. Par ailleurs, notion aussi importante sur laquelle je suis obligé d'intervenir, c'est que toutes les fibres musculaires, voyez, la muscle, c'est composé de fibres musculaires, qui sont des cellules avec beaucoup de noyaux et très longues parfois. Eh bien, toutes ces fibres musculaires ne sont pas toutes identiques sur le plan de leur enzyme métabolique et donc vis-à-vis des processus de transformation de l'énergie qu'elles sont capables de mettre en œuvre, notamment pour assurer les phénomènes mécaniques de la contraction, bien sûr. Alors, certaines d'entre elles, certaines des fibres, dites de type 2, possèdent une grande aptitude à renouveler l'ATP, donc de l'énergie, par la voie métabolique anaérobie lactique. Par contre, les fibres 1, elles, sont nettement plus efficaces sur le plan du métabolisme aérobie. Et d'ores et déjà, pour faire simple, on voit bien que les sportifs orientés vers des sports de force, vitesse, comme les sauts par exemple, seront d'autant plus performants que leurs muscles impliqués dans les exercices concernés seront surtout composés de fibres de type 2, alors que les sports d'endurance, quant à eux, vont au contraire exiger la présence privilégiée de fibres musculaires de type 1. Si on veut prendre les différentes caractéristiques de ces différentes fibres, eh bien, vous voyez que les fibres de type 2, elles sont blanches, elles ont un diamètre important, elles ont une contraction rapide, elles sont fatigables, leur métabolisme principal est glycolytique, c'est-à-dire lactique, si vous voulez, elles ne sont pas très bien vascularisées, et elles n'ont pas beaucoup de mitochondries. On reviendra sur cet aspect-là. Par contre, évidemment, à l'inverse, les fibres de type 1, elles sont rouges parce qu'elles contiennent beaucoup de myoglobine, elles ont un diamètre faible, leur contraction est lente, elles sont peu fatigables, leur métabolisme est oxydatif, elles sont richement vascularisées et elles sont riches en mitochondries et riches pour tous les enzymes qui vont participer au métabolisme oxydatif. Troisième caractéristique, c'est un peu caricatural, hein, je vous l'accorde, de l'être vivant est une machine à dupliquer. Chacun sait maintenant, il est rétif, hein, votre engin. Voilà. Chacun sait maintenant, grâce aux revues diverses, que l'ensemble de l'information génétique est contenu dans les chromosomes eux-mêmes, contenu dans les noyaux cellulaires. Chaque chromosome est apparié, l'un provenant de la femelle, l'autre du mâle. Chaque cellule du corps contient dans son noyau tous les chromosomes propres à l'espèce, exception faite des cellules germinales qui ne contiennent qu'un seul chromosome issu de chaque paire. Chez l'humain, on compte ainsi 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes en tout, mais seulement 23 dans les spermatozoïdes et 23 dans les ovules. Les chromosomes sont constitués du fameux DNA ou acide désoxyribonucléique. Il s'agit d'une longue chaîne, voyez, moléculaire, enrubannée, dont les deux brins sont enroulés sur eux-mêmes et reliés l'un à l'autre par des liens fragiles. Chacun de ces deux rubans sont disposés de façon dite antiparallèle et porteurs de façon complémentaire, hein, inverse et complémentaire du code génétique. On estime que le génome humain comprend environ 70 000 gènes. Chaque gène est lui-même constitué d'une fraction codante, c'est la fraction ici colorée en noir, qui est à l'origine de la synthèse d'une protéine donnée compte tenu du gène donné, et d'une partie non codante, les parties en clair, où sont notamment localisées les séquences régulatrices qui vont contrôler l'activité de ce gène, et qui, en fonction du type cellulaire et du génotype, on appelle aussi le polymorphisme génétique, va, selon les cas, ne pas, ou au contraire, va plus ou moins s'exprimer. Alors, cette duplication, elle peut s'exprimer à différents niveaux. Déjà, elle peut s'exprimer dans le cadre d'un type cellulaire donné au niveau d'un gène particulier, précisément localisé sur un chromosome bien défini, qu'on appelle au niveau d'un locus. Ce gène, en s'exprimant, va ainsi donner origine à la synthèse d'une protéine, une protéine qui est spécifique à ces cellules. Rappelons à ce propos qu'on peut grossièrement classer les protéines en deux types, les protéines de structure, qui forment la trame fondamentale de la matière vivante, et en protéines de fonction, notamment les enzymes, qui sont les facteurs essentiels du métabolisme cellulaire. En ce domaine, un aspect particulier doit être souligné. Les mitochondries, on en a déjà parlé, mais on va en reparler. Ce sont des tout petits organites qui sont situés dans le cytoplasme des cellules, donc qui sont en situation extranucléaire, et qui sont particulièrement abondantes, on l'a déjà dit, dans les fibres musculaires, et notamment les fibres de type 1. Or, ces mitochondries possèdent leur propre système de codage génétique. C'est le seul système de codage génétique qui ne soit pas nucléaire dans la cellule. Et celui-ci permet ainsi l'expression d'un certain nombre d'enzymes oxydatifs, dont la participation, l'intervention est incontournable pour que s'accomplissent les réactions qui entrent dans la voie métabolique aérobie, source d'énergie dont nous avons parlé plus haut. Cette duplication, elle peut aussi s'exercer et se produire au niveau de l'ensemble des chromosomes d'une cellule donnée. C'est le cas de la multiplication ou du renouvellement des cellules au niveau d'un organe ou d'un tissu donné. C'est le cas, par exemple, voilà ici, ce qu'on appelle les cellules satellites. Ce sont des petites cellules qui sont accolées aux fibres musculaires et qui sont à l'origine de leur restauration et éventuellement de leur multiplication. Enfin, évidemment, cette duplication, c'est celle à laquelle on pense tout de suite. Elle peut se produire au niveau d'un organisme entier, à partir de la fusion des cellules germinales, mâles et femelles, avec association des phénomènes de multiplication et de différenciation cellulaire, dans le cas de la reproduction de l'espèce, comme vous le montre ce charmant bébé. Alors maintenant, venons un petit peu à l'explication du thème de cette conférence proprement dite. La performance. Eh bien, la performance, elle se définit, elle est très individuelle, elle peut être très individuelle. En effet, elle va se définir par rapport à un référentiel qui peut être personnel, hein, la durée d'un effort, par exemple. Tiens, aujourd'hui, je vais faire 10 fois le tour du pâté de maison. Hein, ou en termes de temps de réalisation, aujourd'hui, je vais faire le tour du pâté de maison en moins de 5 minutes. Ça, c'est très individuel. Mais il y a des référentiels plus généraux, hein, qui peuvent être locaux, régionaux, nationaux, voire internationaux. Et il est évident aussi, du coup, que le mode de préparation va différer selon la catégorie de sport auquel on s'adresse et que l'on peut tenter de classer en 6 grandes rubriques. C'est assez classique. On appelle les disciplines cycliques, les disciplines où un même geste est répété de façon régulière, la course à pied, le cyclisme, la natation, l'aviron. Ce sont aussi les disciplines de type force-vitesse, le saut, l'haltérophilie, les lancers. Ce sont aussi les disciplines de coordination motrice, où la technicité est particulièrement appréciée, le plongeon, la gymnastique, le patinage artistique. C'est aussi les disciplines où il y a des affrontements singuliers, la boxe, la lutte, le judo, mais aussi des sports comme le tennis, par exemple. C'est enfin des sports d'équipe, le football, le rugby, bien sûr, tout le monde connaît, surtout en ce moment. Et enfin, ça peut être des disciplines mixtes, comme le triathlon, le pentathlon, le décathlon, hein, dans lequel différents sports s'associent de natures différentes. Alors, d'autre part, l'expression de la performance elle-même, elle peut varier parce qu'elle peut être mesurée, c'est en termes de paramètres. Hein. Il peut s'agir d'un temps, les courses, le 100 mètres, moins de 10 secondes, en distance, hein, le saut, les lancers en mètres, le poids, l'haltérophilie, combien de kilos. Mais elle peut être aussi évaluée. Ce sont des notes établies par un jury, gymnastique, le patinage artistique. Elle peut être aussi comptabilisée, sont des points, points marqués par, dans les sports d'équipe, dans le tennis, dans la boxe. Tout ça, c'est une façon d'aborder le problème de la performance. Et puis, la notion de performance, elle peut s'élargir à l'obtention, par exemple, d'un bon résultat lors d'une compétition au cours de laquelle plusieurs adversaires s'affrontent. Enfin, dans les sports d'équipe, la performance prend une dimension collective et elle n'est plus seulement le fruit de la simple addition des qualités individuelles. Et maintenant, prenons le deuxième aspect qui est celui de la plasticité. Alors, la plasticité, c'est la capacité de l'individu à s'adapter à l'environnement. Cette plasticité, elle s'exprime par la capacité, plus ou moins grande, voire nulle, d'un gène ou d'une famille de gènes à s'exprimer. Et cette capacité du gène à s'exprimer est à la base de ce qu'on appelle la constitution d'un phénotype, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques qui définissent un organe, un tissu, une fonction. Par exemple, d'un sujet à l'autre, on peut voir comme phénotype différent un volume cardiaque différent. On peut voir un tissu musculaire différent par rapport à la nature des fibres qui le composent, comme on l'a dit. Ou ça peut être encore une fonction comme la capacité aérobie. Eh bien, la plasticité représente la possibilité pour un individu de faire évoluer ses divers phénotypes dans le cadre d'une adaptation optimale à son environnement. Dans le domaine de la préparation à la performance, il faut comprendre le terme environnement par le mode de vie du sportif, ainsi que son comportement nutritionnel, les conditions climatiques et atmosphériques qui l'entourent, le contexte affectif, professionnel, amical, l'encadrement technique, familial, dont le contexte dans lequel il évolue. Et ce contexte est en grande partie conditionne son niveau de motivation. Et bien sûr, le type d'entraînement auquel il se soumet. Et dans le cas de cet exposé, nous nous contenterons justement d'aborder l'adaptation aux entraînements destinés à réaliser une performance physique. Les phénotypes sur lesquels s'exerce l'entraînement, par exemple la capacité aérobie, dans le cadre d'un sport où prédominent les qualités d'endurance, nous reviendrons sur tous ces termes, dépendent de facteurs de prédisposition génétique complexes, dont il n'est pas aisé d'extraire les gènes déterminants ni d'identifier la part liée à l'hérédité. En fait, l'ampleur de la réponse à l'entraînement va dépendre, selon les qualités physiques et mentales de l'individu que l'on veut optimiser, de son génotype, c'est-à-dire dans quelle mesure ces gènes déterminants, qu'on ne connaît pas ou mal, sont-ils capables d'accroître leur niveau d'expression. Alors maintenant, nous allons, en ligne droite, aborder bien sûr les bases conceptuelles de l'entraînement physique qui sont à la base de cette plasticité qui nous intéresse aujourd'hui. L'entraînement a pour objectif de stimuler les fonctions d'adaptation de l'organisme dans trois domaines essentiels. Les capacités fonctionnelles, c'est-à-dire en fait les ressources, notamment ces ressources énergétiques, on a déjà parlé de la capacité aérobie, ces qualités de coordination motrice, qui s'expriment par le geste, par la technique dans le domaine du sport, et par le mental, qui concerne aussi bien les problèmes de motivation que les problèmes d'attention, de lucidité, etc. Eh bien, les fréquences des séances qui composent l'entraînement, ainsi que le type, l'intensité et la durée des exercices qui sont réalisés au cours de ces séances d'entraînement, varient tout au long de la saison d'un sportif, selon un programme non pas laissé au hasard, mais rigoureusement établi, qui tient compte du niveau d'expertise des sujets et des objectifs sportifs qu'ils se sont assignés. Et il est un aspect sur lequel, d'emblée, tout de suite, j'insiste, c'est que l'entraînement forme un tout qui comprend non seulement au cours de la séance proprement dite, les exercices, mais aussi les moments de repos qui s'intercalent entre chaque exercice, mais aussi, j'allais dire surtout, les périodes de récupération qui séparent les séances elles-mêmes. Globalement, on peut distinguer dans cette phase de préparation ce qu'on appelle la préparation générale et un mode de préparation spécifique. Le mode de préparation générale va s'attacher à améliorer la condition physique des sujets. Elle consiste à accroître la force et l'endurance musculaire, à améliorer la souplesse articulaire, à maîtriser l'équilibre pondéral et à développer les capacités cardiovasculaires des individus. Par contre, au cours du second mode de préparation, les exercices qui constituent la charge d'entraînement, dans ce cas-là, deviennent de plus en plus analogues à ceux qui sont pratiqués en compétition. Ils sont donc très spécifiques. Et la part prise par la préparation spécifique aux dépens de la préparation générale est d'autant plus importante que le sujet est expérimenté et au cours de la saison sportive que l'on se rapproche évidemment de l'époque des compétitions. Si on prend maintenant la caractéristique des exercices qui sont réalisés au cours des séances d'entraînement, eh bien, ceux-ci doivent être précisément définis. Quels systèmes fonctionnels sont sollicités? Les processus aérobie ou les voies métaboliques anaérobie? Quelles sont les propriétés musculaires qu'ils développent? La force, la vitesse, l'endurance, la souplesse? Quelles sont les ressources auxquelles ces exercices font appel? Coordination motrice, processus cognitif, concentration, processus émotionnel? Quelle est leur spécificité? Plus ou moins grande par rapport aux exercices qui vont être ceux de la compétition? Un autre élément aussi qui est important et sur lequel il faut, je crois, insister, je ne vais pas rentrer dans le détail, bien sûr, de tout cet élément, mais c'est la fatigue. La fatigue, ne vous inquiétez pas, c'est la compagne normale du sportif qui s'entraîne. Et elle présente deux aspects. Un aspect qui est un aspect périphérique et un aspect qui est un aspect central. L'aspect périphérique est musculaire, il est lié d'une part à l'épuisement des substrats énergétiques, tels que la créatine phosphate ou le glycogène, au sein des muscles qui sont impliqués dans l'exercice, et d'autre part à l'accumulation dans la fibre musculaire de déchets métaboliques comme l'ammoniac ou l'acide lactique qui va être à l'origine d'une acidité locale. Et même dans certains sports, comme la course à pied, des micro-lésions musculaires peuvent apparaître qui contribuent à cette sensation de fatigue et à la douleur qui l'accompagne. Le temps nécessaire pour qu'à l'arrêt de l'effort, la situation se normalise peut varier entre plusieurs minutes à plusieurs heures en fonction, disons, de la séance qui a été réalisée. L'autre aspect central correspond à des perturbations de certains neuromédiateurs cérébraux. Et là, les délais de normalisation sont aussi très variables. Cependant, dans ce cas-là, les troubles comportementaux de la fatigue peuvent parfois persister très au-delà de la période normale de récupération, évoquant alors le développement d'un état de surmenage, voire même d'un état de surentraînement, qui est la grande crainte des sportifs à l'entraînement et sur lequel nous n'insisterons pas aujourd'hui. Eh bien, ces périodes de récupération, elles sont nécessaires. Je vous l'ai déjà dit, elles se situent entre deux séances d'entraînement et elles font partie intégrante du programme de préparation physique. Il est classique de distinguer deux phases dans cette récupération. L'une rapide, qui correspond au retour à l'homéostasie, c'est-à-dire à l'équilibre, aux grands équilibres internes, qui peut durer quelques minutes à plusieurs heures, selon la nature de la séance qui précédait. Et puis l'autre qui est constructive et qui est plus longue. Et c'est pendant cette période que vont se dérouler au sein de l'organisme les changements structurels et fonctionnels qui correspondent au type d'exercice réalisé au cours de la séance d'entraînement. Et ça, c'est tout à fait important. Ces processus d'adaptation sont la conséquence du stress que constitue pour l'organisme chacun des exercices qui composent la séance d'entraînement et la répétition organisée de celle-ci. Ils dépendent étroitement de la nature des efforts réalisés durant l'entraînement, dont ils sont en quelque sorte le reflet fidèle. En effet, la sursollicitation des organes impliqués dans l'exercice concerné, par exemple les cœurs, le cœur, les vaisseaux, les muscles, provoque chez ceux-ci, au niveau de leur tissu cellulaire, une synthèse protéique de type structurel ou enzymatique qui, au bout du compte, aboutit à une augmentation de leur réserve fonctionnelle, c'est-à-dire de l'amplitude de leur réaction au stress-exercice. On observe aussi une amélioration des mécanismes régulateurs qui assurent la coordination de l'activité des systèmes fonctionnels, dont l'efficacité, on vient de le voir, est elle-même accrue, qui assurent la bonne efficacité des systèmes de coordination motrice et qui permet aussi l'adaptation mentale aux contraintes de l'entraînement et de la compétition. Cette adaptation est progressive, mais notion absolument essentielle, elle atteint une limite qui est propre à chaque individu et qui dépend de son génotype. Pour nous résumer dans ce domaine, si l'on reprend l'opinion de Platonov, qui était un grand entraîneur russe des années 80-90, eh bien Platonov disait que l'entraînement sportif moderne est caractérisé par une augmentation progressive des charges imposées au sujet. Ceci permet à chaque étape d'imposer à l'organisme des sollicitations proches de ses possibilités fonctionnelles. Cette condition est indispensable à une stimulation efficace de ces processus d'adaptation. Et maintenant, nous allons passer à l'analyse de l'entraînement. Alors, pourquoi l'analyse de l'entraînement ? Eh bien, parce que le but de cette analyse est de déterminer sur quel phénotype il est nécessaire d'agir afin de construire des programmes d'entraînement pertinents qui accordent la place qu'il faut à l'amélioration des facteurs de la performance, les facteurs de la performance qui jouent un rôle déterminant dans la discipline considérée, qui est celle du sujet. Et en effet, l'épreuve sportive ne peut pas être considérée comme une activité homogène. Et elle doit être découpée de façon analytique en plusieurs séquences qui, chacune d'entre elles, répond à des caractéristiques particulières sur le plan des capacités fonctionnelles, donc des ressources énergétiques, de la coordination motrice et mentale mise en jeu. Le plan d'entraînement doit tenir compte de ces exigences parfois contradictoires. Capacité fonctionnelle, coordination motrice, qualité mentale, les trois clés, les trois cibles de l'entraînement, je le répéterai jamais assez. Eh bien, l'illustration d'une telle analyse séquentielle d'une activité sportive déterminée, celle d'un 100 mètres nage libre, et celle qui a été fournie par Pfeiffer en 80, qui a été rapportée par Platonov dans son ouvrage. Et c'est sur ce type d'approche quasiment transposable à tous les sports qu'est fondée l'élaboration des programmes d'entraînement. Alors cette analyse, quelle est-elle ? Eh bien, voilà un 100 mètres nage libre. Voici ici les premiers 50 mètres, l'aller et le retour. Et vous voyez que cette épreuve est décomposée en plusieurs éléments. Ici, les éléments qui correspondent au départ, avec la plongée. Ici, la phase de transition qui précède ce que j'appellerai la phase de rythme soutenu, qui est le rythme de croisière qui doit être le plus élevé possible. Ici, c'est la phase de transition qui précède le virage que vous voyez ici, aller et retour. La phase de transition qui précède de nouveau cette phase de maintien, encore une fois la plus élevée possible. De nouveau une phase de transition qui précède la phase du sprint de l'arrivée. Eh bien, les qualités de coordination motrice et de capacité fonctionnelle occupent une part respective plus ou moins importante au cours de chacune des 10 phases ainsi décrites. Et voilà, par exemple, ici, eh bien, vous voyez que si l'on prend la phase 1, nous avons prédominance des qualités de coordination motrice et nous retrouvons ici les phases qui correspondent essentiellement à la plongée et au virage. Ici, au contraire, les phases de sprint, ou les phases de transition, nous retrouvons toutes les phases où la prédominance des capacités fonctionnelles, donc des ressources énergétiques, vont être les plus importantes. Et ici, vous avez les phases mixtes, à la fois de coordination motrice et de ressources énergétiques, qui correspondent à la phase de maintien d'une certaine vitesse. Eh bien, vous voyez qu'une telle démarche analytique peut ainsi aider à la mise en place d'un programme d'entraînement très pertinent, très ciblé, et qui accorde la place qui convient à chaque instant à l'amélioration de chacun de ces facteurs de la performance. Et cette approche, elle peut se décliner pour chacune des étapes mentionnées. Par exemple, le départ fait appel à des qualités énergétiques de type force explosive, de coordination motrice concernant le plongeon, l'angle d'attaque dans l'eau, la perfection du geste, mental, motivation, concentration, temps de réaction. Et la préparation à la performance doit tenir compte de chacun de ces éléments, en sachant que certains modes de perfectionnement peuvent être contradictoires. Par exemple, un entraînement qui va être basé de façon trop prédominante sur le développement des qualités force-vitesse, hein, force explosive, ben peut limiter l'amélioration de la capacité aérobie. Et ainsi, le départ plongé en natation, qui demande des qualités de vitesse, de réaction et de force explosive, donc faisant essentiellement appel à des ressources de type anaérobie, eh bien, vont être difficilement compatibles avec l'augmentation des qualités ou de la performance aérobie qui est indispensable pour maintenir le rythme élevé de natation pendant les grandes phases de maintien. Donc vous voyez que tout ça est très compliqué. Et quels sont les effets de l'entraînement en endurance ? Eh bien, si j'ai ciblé l'entraînement en endurance, c'est parce que certainement c'est celui pour lequel nous disposons à l'heure actuelle d'un maximum d'informations qui nous permettent d'aborder effectivement les possibilités et les limites de la plasticité humaine. Alors, cet entraînement, il est destiné à préparer les sportifs à accomplir des efforts de longue durée, comme par exemple course à pied, marathon, cyclisme sur route, ski de fond, enfin vous connaissez tous bien sûr. Et l'objectif de cet entraînement, il est d'accroître les performances, la capacité aérobie des sujets. Et cela sur plusieurs plans. Et nous allons retrouver ce métabolisme, ces voies métaboliques aérobies dont on parlait au départ, qui nécessitent la présence d'oxygène. Eh bien d'abord, augmenter la puissance aérobie, c'est-à-dire le débit maximal de renouvellement d'ATP pour cette voie particulière. Cette puissance aérobie, elle est évaluée grâce à la mesure d'un paramètre que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est ce qu'on appelle la VO2 max, c'est-à-dire la consommation maximale d'oxygène. Elle est de 35 à 40 millilitres d'oxygène par kilo et par minute dans la population française adulte ou venant. Elle peut être le double, largement le double, chez des marathoniens de haut niveau. Et aussi, il s'agit... Ah, il ne veut pas, hein ? Et mes faits en radioporama, je ne veux pas mettre fin. Voilà. Permettre d'accroître l'endurance aérobie. Alors, l'endurance aérobie, c'est la capacité à mobiliser sur une distance donnée la fraction la plus élevée possible de cette consommation maximale d'oxygène. Par exemple, pendant toute la durée d'un marathon, pouvoir mobiliser 80% de sa VO2 max, tout aussi, c'est un autre débat, en économisant ses réserves en glycogène. Il s'agit aussi de réduire le délai d'optimisation de la voie métabolique aérobie, c'est-à-dire que le plus vite possible, elle se mette en jeu à sa puissance maximale. Et enfin, augmenter le rendement énergétique, c'est-à-dire améliorer l'efficacité du geste. Alors ça s'exprime par une réduction du coût énergétique du travail physique accompli. Par exemple, pour un marathonien après entraînement, c'est réduire sa consommation d'oxygène pour une vitesse de course donnée, ou encore courir plus vite sans augmenter pour autant sa consommation d'oxygène. Évidemment, ça demande un perfectionnement du geste, ça demande d'un travail dans le domaine de la coordination motrice extrêmement important, tout ce qui aboutit à cette meilleure efficacité. Au total, la performance, c'est-à-dire la vitesse potentielle maximum de ce marathonien, hein, la voilà la vitesse maximale potentielle, eh bien, elle sera d'autant plus grande, évidemment, que sa puissance, c'est-à-dire sa VO2 max, sera importante, et que le pourcentage maximal mobilisable de cette VO2 max sera élevé. Et enfin, que son coût énergétique sera bas, c'est-à-dire que son rendement sera meilleur. Et vous voyez que c'est chacun de ces objectifs se rattache bien aux objectifs généraux de l'entraînement qu'on a déjà évoqués. Les capacités fonctionnelles, c'est toutes les ressources énergétiques, et dans le cas précis, les ressources énergétiques de la voie métabolique aérobie, de la coordination motrice. Coordination motrice, c'est la perfection du geste, c'est la technique. Et mentale, parce que sur le plan mental, il y a toute une adaptation pour accepter ce type d'entraînement. Enfin, les formes d'entraînement ayant pour objectif d'améliorer les capacités aérobies varient. Pour simplifier, on distingue l'entraînement par la distance et l'entraînement par intervalle. Les séances du premier type sont constituées d'exercices dont la durée peut varier de 10 minutes à plus de 90 minutes en fonction du niveau des sportifs. Et l'intensité correspond à une consommation d'oxygène aussi proche que possible de sa valeur maximale. Par contre, les séances du deuxième type, l'entraînement par intervalle, sont constituées de la répétition d'exercices de brève durée, 1 à 2 minutes, d'intensité élevée, avec des périodes de repos n'excédant pas 90 secondes. Cependant, n'oublions pas que de nombreuses disciplines sont mixtes et font appel de façon plus ou moins prédominante à des capacités énergétiques aussi bien aérobie qu'anaérobie. Par exemple, les courses de demi-fond de l'athlétisme, 800-1500 mètres. Mais c'est aussi le cas du tennis et de la plupart des sports d'équipe, et ça vous le comprenez bien, puisqu'il s'agit de tenir longtemps en conservant sa lucidité, alors qu'interviennent de façon répétée et plus ou moins aléatoire des phases critiques d'accélération de vitesse qui, elles, font appel à des ressources de type métabolisme anaérobie. Alors, du coup, l'entraînement devient très compliqué parce que, répétons-le encore une fois, les contraintes d'entraînement qui sont nécessaires pour développer les qualités anaérobie de force-vitesse peuvent avoir des effets contraires sur l'amélioration de la capacité aérobie. L'amélioration du phénotype capacité aérobie est vraiment l'illustration de la plasticité du système vivant. Et ce phénotype se décline en deux concepts. La puissance maximale aérobie, on en a déjà parlé, qui est évaluée par la mesure de la VO2 max. Or, celle-ci dépend de toute la chaîne des mécanismes qui assurent le transfert de l'oxygène depuis les poumons jusqu'à la mitochondrie dans les cellules musculaires où l'oxygène est utilisé. Parmi ces mécanismes, soulignons notamment l'importance primordiale sur les plans quantitatifs et qualitatifs de l'hémoglobine contenue dans les globules rouges et de son sur lequel se fixe l'oxygène et de son débit circulatoire qui est la conséquence directe de l'activité cardiaque. Quant à l'endurance aérobie dont on a déjà parlé et donc qui peut se définir comme le pourcentage maximal de la VO2 max qu'un individu est capable de mobiliser sur une distance ou un temps donné, eh bien, il s'agit d'économiser les réserves musculaires en glycogène, qui doit rester un des substrats énergétiques indispensables au bon fonctionnement de l'organisme dans son ensemble, de limiter l'intervention des voies anaérobies lactiques, source d'une acidose qui constitue un important facteur de fatigue, et améliorer les processus d'évacuation de la chaleur produite. Et c'est l'ensemble, ceci représente les adaptations essentielles dans l'amélioration de l'endurance. Alors, dans notre exemple, il s'agit à la fois d'accroître les capacités de transport de l'oxygène depuis l'air atmosphérique jusqu'au muscle en activité et son utilisation de l'oxygène par ces derniers, ce qui revient à définir ce qu'on appelle les adaptations centrales et des adaptations périphériques. Adaptation centrale, c'est augmenter la puissance de la pompe cardiaque, c'est-à-dire son débit maximal. À l'échelon périphérique, c'est favoriser l'irrigation sanguine de la fibre musculaire. Et aussi d'accroître les capacités oxydatives de cette fibre musculaire, notamment au niveau des mitochondries, qui, nous l'avons vu, sont le siège d'une partie importante des enzymes oxydatives qui vont intervenir dans la voie oxydative, ainsi que l'activité des enzymes qui favorisent l'utilisation des lipides comme substrat énergétique et donc permettre l'économie de l'utilisation du glycogène comme substrat énergétique. Alors, si on veut aller plus loin dans le détail de ces réactions adaptatives, eh bien, à l'échelon central, c'est-à-dire au niveau du muscle cardiaque, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe une augmentation de la masse cardiaque. L'épaisseur des parois cardiaques, des ventricules, augmente, ainsi que le volume des cavités ventriculaires. Par là même, on constate une augmentation du débit cardiaque maximal. Donc, on augmente la circulation du transporteur d'oxygène qu'est l'hémoglobine et les globules rouges. En même temps, grâce à l'influence prédominante du parasympathique, il y a réduction du rythme cardiaque de repos. On le sait, dit Merckx, avait un rythme cardiaque de repos de près de 35 battements par minute. Et enfin, on observe aussi que la récupération cardiaque est beaucoup plus rapide après ce type d'entraînement. Par contre, au niveau des fibres musculaires, donc en périphérie, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, l'irrigation des fibres musculaires s'accroît. Leurs capillaires, ils ont plus de capillaires. Leur nombre de mitochondries augmente, évident. Les activités enzymatiques qui favorisent l'utilisation des lipides s'accroît. La concentration de la myoglobine, vous savez, qui accélère le transfert de l'oxygène au travers du cytoplasme de la fibre musculaire jusqu'aux mitochondries. Eh bien, elle augmente. Et enfin, la nature des protéines qui entrent dans la composition de l'appareil contractile de la fibre musculaire se modifie en s'orientant vers une forme plus lente. Les synthèses protéiques qui sous-tendent ces adaptations sont la conséquence directe des contraintes spécifiques de l'entraînement. Chaque exercice réalisé au cours de chaque séance crée un stress qui appelle une réponse adaptative des organes et des tissus concernés. Et cette réponse adaptative, rappelons-le, se développe durant les phases de récupération qui séparent les séances. Ainsi, en prenant le cœur comme exemple, hein, et on va seulement s'attacher à cette partie-là. Pendant un exercice qui mobilise de grosses masses musculaires, comme la course ou le vélo, la quantité de sang qui arrive dans les ventricules pendant la phase de remplissage qui s'intercale entre chaque contraction de l'organe s'élève. Et donc, ceci produit un étirement des parois cardiaques. Ce phénomène a pour conséquence une augmentation de la synthèse des protéines constitutives de la fibre cardiaque, dont la longueur et un peu l'épaisseur vont s'accroître. Cependant, il est clair que la plupart des facteurs modulateurs qui agissent au niveau des zones régulatrices de ces gènes et des gènes concernés, donc facteurs régulateurs responsables du déclenchement de cette synthèse protéique, gardent encore leur large part de mystère, je vous rassure. Alors maintenant, eh bien, ma foi, une conclusion en forme de question, en forme d'interrogation. Et pour conclure, deux questions se posent. Quelle est la part de l'hérédité dans le niveau initial des qualités prédisposant à la réalisation d'une performance? Chez un sédentaire, quelle est la part de la réalité dans la mesure de la consommation maximale d'oxygène? Et d'autre part, quelle est l'influence du génotype dans l'ampleur de la réponse adaptative de l'individu à son environnement et notamment en l'entraînement physique? De grandes inconnues subsistent par rapport à ces deux questions. Néanmoins, quelques éléments de réponse concernant le phénotype capacité aérobie mesuré par la consommation maximale d'oxygène nous sont fournis. Alors, d'une part, grâce aux études qui sont menées chez les jumeaux monozygotes, comparées à celles qui sont effectuées chez les jumeaux, les faux jumeaux, ou dans les fratries courantes. Et d'autre part, grâce aux résultats fournis par la plus grande étude d'épidémiologie génétique réalisée, consacrée aux relations existantes entre le patrimoine génétique, l'exercice physique et l'entraînement, c'est ce qu'on appelle la grande étude en Amérique du Nord, The Heritage Family Study. Ainsi, les jumeaux identiques ont une consommation maximale très proche, avec un niveau de réponse à l'entraînement très semblable. Au contraire, on ne trouve pas de telles similitudes chez les faux jumeaux hétérozygotes et encore moins dans les fratries habituelles. Par ailleurs, les recherches épidémiologiques quantifiées révèlent que les facteurs génétiques expliquent environ 40% des variations intra- et interfamiliales des consommations maximales d'oxygène constatées chez les sédentaires. Mais il y a aussi de grandes différences dans la réponse à un entraînement standardisé. Si l'augmentation moyenne de la consommation maximale d'oxygène suite à cet entraînement et de 19% dans le cas de cette très large population, eh bien, on voit que 5% des sujets ne présentent aucun changement malgré l'entraînement auquel ils sont soumis, alors que 5%, au contraire, présentent une élévation de consommation maximale d'oxygène atteignant 40 à 50%. Ce fait concerne tous les sujets, quel que soit leur âge, leur sexe, leur race et leur niveau de condition physique. Et les facteurs génétiques rendent compte de 47% des variations concernées. Pour conclure, plus généralement, il apparaît que globalement, l'influence génétique rend compte de la plupart des différences individuelles constatées dans les phénotypes ayant un lien avec les performances de niveau olympique. Cependant, pour un sujet donné, cette influence potentielle va s'appliquer de façon privilégiée et spécifique à certains phénotypes particuliers. Et elle ne peut, cette influence potentielle, elle ne peut pleinement se développer que si l'entraînement auquel le sportif est soumis est pertinent, correspondant à une forte sollicitation de ces phénomènes privilégiés propres à l'individu et cette adaptation à des limites liées au génotype de l'individu. Cependant, il faut dire qu'en l'état actuel des connaissances de la médecine moléculaire, il n'est guère possible de faire des prédictions individualisées des réactions à l'entraînement, car la réalisation d'une performance correspond dans chacun des domaines que nous avons envisagés, capacité fonctionnelle, coordination motrice, faculté mentale, à un nombre très élevé de phénotypes dont les expressions dépendent elles-mêmes de gènes déterminants non encore identifiés et pour lesquels nous ignorons les capacités de réponse à l'entraînement. Alors vous voyez que le mythe du gène de la performance, eh bien on peut lui tordre le cou. Aussi, mais ça c'est mon opinion personnelle, la détection génotypique des talents, bien que vraisemblable à terme, n'est vraisemblablement pas aussi imminente que certains voudraient nous le faire croire. Je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère que cet exposé vous aura intéressé.
Oui, merci, monsieur le professeur. J'aimerais vous poser une question des relations entre l'effort physique et le sommeil. Je m'explique, je suis un randonneur impénitent et il m'arrive après des efforts physiques de marche de 30 à 40 km par jour, de ne pas avoir sommeil le soir en m'endormant. Ça arrive assez souvent. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Parce qu'on devrait pouvoir penser qu'au contraire, c'est tout de suite l'effondrement sur un lit qui guette. Et ce n'est pas vrai du tout.
Bon, oui, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas un spécialiste de sommeil. Ceci dit, si j'étais votre entraîneur, je m'inquiéterais un petit peu parce que les troubles du sommeil, si vous voulez, sont un des premiers symptômes qui apparaissent lorsqu'on est en état de surmenage, voire de surentraînement. Parce que, si vous voulez, il y a des, comme vous l'avez vu dans le cliché que vous ai montré, il y a de grosses perturbations qui apparaissent au niveau d'un certain nombre de neuromédiateurs centraux, dans le détail desquels je ne vais pas rentrer, mais c'est vrai que ces neuromédiateurs centraux, et notamment, je n'en ai pas parlé, mais l'acide gamma-aminobutyrique, joue un rôle important dans l'éveil. En plus, vous avez vraisemblablement une sollicitation orthosympathique suffisamment importante pendant, disons, l'ensemble de votre randonnée et qui fait que le système de mise en éveil de l'organisme ne se calme pas, ne revient pas aussi rapidement que ça à la normale. Et je ne suis pas... C'est un phénomène très fréquent dont vous me parlez, là. D'ailleurs, ça existe aussi... Il n'y a pas que chez les sportifs.
J'aurais voulu poser une question. Vous avez parlé, suite à l'entraînement en endurance, une augmentation de la taille du cœur. Je voudrais savoir si...
Une augmentation de...
La taille du cœur.
Oui.
J'aurais voulu savoir si, en s'entraînant, ça ne dépendait pas aussi de l'âge. Parce que je pense qu'à un certain âge, on ne peut peut-être plus espérer améliorer autant ses performances et avoir une capacité cardiaque plus importante.
Oui, vous avez raison. Il est clair que c'était la nécessité du genre que j'ai essentiellement parlé des athlètes ou des sujets, disons, dont les capacités d'entraînement sont encore fossiles. Ceci dit, ne croyez pas tout à fait ce que vous venez de dire. Ça serait dommageable. Parce que l'entraînement en endurance, mais pratiqué d'une façon, disons, très, très modérée et très bien codifiée, vous savez, les médecins prescrivent chez les personnes âgées des modes de préparation physique qui tiennent compte de leurs capacités. Et ces capacités, d'ailleurs, vont progressivement augmenter au fur et à mesure qu'elles s'entraînent. Mais c'est vrai qu'au niveau cardiaque, ce que l'on va quand même observer, c'est une réduction du rythme cardiaque de repos. On va quand même observer une amélioration de la fonction cardiaque et notamment, semble-t-il, une amélioration, c'est peut-être ce qui est le plus important, de la résistance du muscle cardiaque à l'hypoxie. C'est-à-dire que le muscle cardiaque est plus capable de résister à des phénomènes d'hypoxie qui peuvent apparaître, par exemple, au cours d'un infarctus. Ce qui veut dire que la résistance à, non pas à l'infarctus, mais aux conséquences immédiates de l'infarctus, semble plus forte chez les sujets qui s'entraînent en endurance. Mais malgré tout, chez des sujets, des personnes âgées qui s'entraînent en endurance, on voit par exemple que leur consommation maximale d'oxygène augmente. Avec l'âge, la consommation d'oxygène diminue obligatoirement. Obligatoirement. Mais elle diminue moins chez les sujets qui s'entraînent en endurance. Or, l'entraînement en endurance, si elle diminue moins, c'est bien parce que l'utilisation périphérique de l'oxygène est améliorée et c'est bien parce que la fonction cardiaque est améliorée. On dit aussi, la preuve n'est pas encore totale, mais de bons arguments semblent montrer, que le système coronaire, l'irrigation coronaire, est améliorée par l'intermédiaire d'un entraînement en endurance.
Est-ce que la notion de goulot d'étranglement serait pertinente? C'est-à-dire que si on prend par exemple le transport de l'oxygène, un cœur très performant, mais sur une circulation périphérique qui ne peut pas être très améliorée, eh bien c'est cette circulation périphérique qui serait le goulot d'étranglement. Est-ce qu'on peut généraliser ce concept? Est-ce qu'il est valable?
Alors, c'est, comme on dit dans les congrès, c'est une très bonne question. Oui. Alors, c'est un grand débat. Est-ce que la limitation à la puissance maximale aérobie, c'est-à-dire à la VO2 max, est-ce qu'elle est centrale ou est-ce qu'elle est périphérique? En fait, je vous dirais qu'il faut qu'elle soit parfaitement adaptée l'une à l'autre. Et alors là, c'est tout nouveau comme information, elle demande à être prouvée, c'est Nokas, qui est un chercheur sud-africain qui l'a mis en évidence et qui a publié ça il y a quelques mois. Il semble que même au niveau cardiaque, il y a un espèce de phénomène de protection dont on n'a pas encore bien élucidé le système et qui fait que la fréquence cardiaque maximale, si elle est maximale, ce n'est pas parce que le cœur ne peut pas aller plus vite, c'est parce qu'il y aurait des systèmes de protection qui empêcheraient effectivement le cœur de battre trop vite, ce qui risquerait évidemment de nuire à son bon fonctionnement et qui en plus nuit à son rendement. Mais pour répondre à votre question, le goulot d'entraînement, il est quand même beaucoup plus central qu'il n'est périphérique. C'est vrai chez les sujets sportifs, c'est vrai aussi, disons, chez les gens qui s'entraînent modérément. Par contre, on peut penser que dans certains cas, notamment chez les myopathes, chez certains myopathes, c'est bien la périphérie, le goulot d'étranglement. Il n'est pas l'échelon central. L'objectif, et c'est bien ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que l'entraînement, il doit en permanence équilibrer les deux actions, l'action centrale et l'action périphérique. C'est tout à fait essentiel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que des fois, il y a des problèmes dans les programmes d'entraînement, parce que certains programmes sont contradictoires par rapport à l'amélioration de l'une ou l'autre de ses fonctions.
Bon, je ne voudrais pas faire part d'un sexisme primaire, mais il me semble que vous avez complètement oublié, y compris dans les documents que vous avez projetés, les performances féminines, et en particulier les performances féminines lors de l'accouchement et les performances féminines lors des travaux d'hiver et au moment où Madame Claudie André Déhay, épousée Nieret, devient ministre, ça me paraît relativement important. dans l'histoire, nous avons une princesse qui s'appelle l'archiduchesse Marie-Thérèse d'Autriche, qui avait un sens politique très prononcé, qui a réussi à faire une activité politique particulièrement importante en ayant plus de 21 grossesses abouties, sans compter les nombreuses fausses couches. Alors, comment expliquez-vous cette espèce d'absence des performances de l'accouchement? Personnellement, moi, quand j'ai accouché, on m'a fixé un max à oxygène sur la figure pour la totalité du temps.
Je crois qu'on a compris.
Ah, je plaide coupable, madame. Effectivement, je dois dire que le sujet qui m'avait été proposé n'incluait pas les performances obstétriciennes. Je le regrette parce que c'est vrai que c'est intéressant. Ceci dit, tout ce que j'ai dit concerne aussi bien la femme que l'homme. Je ne vois pas en quoi l'augmentation du volume cardiaque qui peut apparaître chez l'homme n'apparaîtrait pas chez la femme. Nous avons très exactement les mêmes phénomènes. Et tout ce que je vous ai dit s'applique in extenso à l'homme et à la femme. Je suis désolé, c'est vrai que les Grecs étaient un peu sexistes et que ce que j'ai pu recueillir sur les poteries grecques se rattachait plus à des Jeux olympiques où les hommes étaient présents que les femmes. Vous m'en verrez désolé et dès que je pourrai, je ferai quelques reproches à Zeus. Mais croyez-moi bien, tout ce que j'ai dit là s'applique à la femme. C'est la même chose. Dans ma tête, il n'y avait pas de différence. Pas de différence. Alors, quant au problème de l'accouchement, c'est un autre débat. J'avoue que moi-même, ce n'est pas ma spécialité et je serais très heureux de pouvoir avoir des informations sur ce plan. Mais je suis désolé, hein, je plaide coupable, je le dis. Et j'accuse aussi le partenaire qui m'a invité à ne pas m'avoir averti.
À quel moment a-t-on établi que la performance est à son maximum dans la journée?
Attendez, pardon.
Est-ce qu'il y a un moment prédisposé dans une journée où la performance est la plus accrue?
Vous savez, on ne peut pas dire qu'il y a un moment, parce que ça aussi, c'est très individuel. Et actuellement, votre question vient tout à fait à point, puisque vous savez que la chronobiologie est de naissance rare, de naissance récente. Un de ceux qui l'ont beaucoup développé est Reinberg, qui a longtemps travaillé, d'ailleurs, à Paris 6, qui avait un très beau laboratoire à la Fondation Rothschild. Et depuis, il y a ainsi, même en France, Twitou, par exemple, s'intéresse à ces problèmes. Et il y a actuellement des études qui montrent rien, justement, qui révèlent que pour un individu donné, eh bien, il y a des modifications de niveau de performance en fonction de l'heure de la journée. Et ceci est très propre à l'individu, ce qui est gênant d'ailleurs, parce que malheureusement, l'heure des compétitions, elle est ce qu'elle est. On ne peut pas modifier l'heure de la compétition, on peut faire une compétition donnée pour un individu donné, bien évidemment, ça n'aurait pas de sens. Mais votre question est tout à fait réelle, et notamment, on le sait très bien pour tout ce qui est sécrétion hormonale. Hein, on sait très bien que le pic d'hormones, de sécrétion de l'hormone de croissance, par exemple, c'est la nuit. Hein, bon, on connaît bien tout ça, mais si on connaît bien... Si on commence à bien connaître les évolutions circadiennes d'un certain nombre de phénotypes, par contre, c'est vrai, on n'a pas encore totalement utilisé ces connaissances dans le domaine de la réalisation d'une performance. Et un certain nombre d'équipes s'y attachent. Hein. J'en ai quelques-unes en tête que je connais. Moi, ça, je ne me suis jamais personnellement intéressé, mais je n'ai jamais travaillé dessus.
Vous nous avez parlé du rôle de la créatine dans le cycle de l'ATP.
Oui.
On sait que l'apport exogène de créatine est actuellement assez débattu. Pouvez-vous nous dire un mot là-dessus?
Oh oui, très volontiers. Là, ce dont j'ai parlé, c'est de la créatine sérieuse. Hein. C'est la créatine phosphate qui est située dans le muscle et qui sert de réserve d'énergie. Ce n'est pas la créatine qui est énergétique. C'est le fait qu'elle est liée à un phosphate par une liaison riche en énergie, et lorsque cette liaison se détache, grâce à une action enzymatique, ça libère l'énergie. La créatine, elle n'a rien à voir dans cette affaire. Hein. Elle est simplement le complice de cette liaison phosphatée. Alors maintenant, quant à la créatine absorbée de façon exogène. Il y a plusieurs éléments. Alors, il semble que la créatine, justement en apportant un petit peu plus de créatine au niveau du muscle, apporte une petite augmentation de la concentration de créatine phosphate au niveau du muscle. Vous savez que la concentration de créatine phosphate est très très faible dans le muscle. C'est pour ça d'ailleurs que l'énergie libérée à partir de son hydrolyse dure très peu de temps. C'est un système très puissant qui est capable de produire beaucoup, de renouveler beaucoup d'ATP, mais qui dure très peu de temps, quelques secondes. Et si on augmente un tout petit peu cette créatine phosphate, on va augmenter d'autant un peu la puissance explosive de l'exercice. Malheureusement, et ça toutes les publications sont concordantes, plus le sujet est entraîné et moins la créatine fait quoi que ce soit dans ce domaine-là. Ça marche un petit peu chez le sédentaire, c'est le sujet entraîné, notamment en force, ça ne donne rien. Alors, par ailleurs, on dit la créatine, et c'est pour ça que c'est utilisé, c'est pas pour cet aspect très pointu que je viens de signaler, on dit la créatine, ça va donner des muscles, comme le bonhomme que vous avez vu tout à l'heure. Ça va donner des muscles, et oui, ça donne des muscles. En fait, ça augmente le volume musculaire, ce qui est différent. En fait, ça donne surtout de l'eau. C'est-à-dire que la créatine permet d'augmenter la concentration d'eau au sein du muscle. C'est-à-dire que le muscle augmente, mais on n'a jamais démontré, jamais, vous m'entendez, qu'il y avait une augmentation des protéines contractiles. Et c'est ça ce qui est important. Quand on donne... Alors, par contre, la créatine plus des anabolisants, ça marche. Mais ce qui marche, ce n'est pas la créatine, c'est les anabolisants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, actuellement, vous vous entendez bien, et nous-mêmes, on s'est préoccupé de ce problème, et le CIO aussi, il y a une étude du CIO qui est particulièrement intéressante dans ce domaine-là. Vous avez comme un pourcentage non négligeable de suppléments alimentaires, de compléments alimentaires à base de créatine, dans lequel on retrouve des compléments hormonaux et notamment des anabolisants stéroïdiens. Du coup, les types se font choper parce qu'ils sont positifs. En fait, ils me disent « mais moi, j'ai pris que de la créatine ». Il n'y a pas que de la créatine. Et notamment, tout ce qu'on commande par Internet. Alors là, c'est là. C'est... Alors, les anabolisants, ça marche. Ben, c'est clair, mais pas la créatine.
Bien, Michel Rieu, merci beaucoup.